Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Audrey.
Oui, bonsoir, vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends parfaitement.
Super.
Alors, est-ce que vous voulez bien donc nous raconter votre propre expérience ?
Oui, alors mon expérience, elle est un peu différente, semblable sur certains points, mais différente sur d'autres. Donc, moi, j'ai rencontré l'été dernier, lorsque j'étais en vacances en Bretagne, un jeune homme.
Oui.
Voilà. Et puis ensuite, on a entretenu une relation à distance pendant 6 mois entre Rennes et Lyon.
Oui.
Donc, plus de 600 kilomètres quand même. Une relation qui était très passionnelle, très intense, avec toujours une évidence et une passion entre les deux.
Comment elle se vivait, votre relation ?
Alors, en fait, elle se vivait, on se voyait à peu près tous les 15 jours. On prenait soit l'avion, soit le TGV pour venir se voir.
Oui.
Donc, c'est quand même des longs trajets, des longues distances
c'est
qui
vrai.
Montrent bien qu'il y avait quelque chose de fort entre nous.
Oui.
Et puis, le reste du temps, on communiquait par message, par appel. Voilà. Pendant environ 6 mois. Et sur la fin, alors qu'il me disait voilà, de tout quitter à Lyon pour le rejoindre en Bretagne, de trouver un travail à Rennes, qu'il était prêt à mettre mon nom sur sa boîte aux lettres, etc., je l'ai senti du jour au lendemain très distant déjà dans ses messages, dans un premier temps.
Oui, pourtant c'était lui qui avait parlé de la perspective que vous le rejoigniez, c'était son initiative.
Oui, c'était son initiative parce que moi je suis plutôt du genre à prendre mon temps et à pas trop m'emballer.
Oui.
Et là pour le coup vraiment lui il était à fond et moi j'ai un peu suivi son rythme. Donc je commençais à regarder les offres d'emploi en fait à Rennes. Dans l'optique de le rejoindre un jour ou l'autre, je commençais à en parler un petit peu à mes collègues aussi. Pour les préparer, entre guillemets, à mon départ.
Oui. Donc vous étiez en train de construire, pas à pas, votre changement de vie.
C'est ça, exactement, pas à pas, en sachant qu'habituellement, je ne suis pas du tout pressée comme ça. Mais là, c'était tellement intense et passionnel à chaque fois, et il m'invitait tellement à me laisser aller que finalement, j'ai suivi sa cadence, on va dire.
Oui.
Et puis, au final, au bout de 6 mois, je l'ai senti, mais vraiment du jour au lendemain, hyper distant dans ses messages, donc avoir des messages bien moins développés, plus de tu me manques, je t'aime, plus de cœur. Et là, je me suis dit, il y a quand même un problème.
Quand vous dites du jour au lendemain, est-ce que vous avez pu repérer quel a été le tournant exactement, après quelle phrase, après quel événement ? Est-ce que vous avez pu repérer ce point de bascule ?
J'ai pas forcément un déclic vraiment en tête, c'est ça qui est justement très perturbant. Par contre, je me souviens par exemple de lui avoir envoyé une photo de moi en robe avec des talons pour qu'il soit content et qu'il me dise que j'étais belle, etc. Et en général, d'ailleurs, quand je lui ai envoyé une photo de moi, il me disait toujours « là, tu me manques, quand je te vois, j'ai vraiment envie, quand je te vois en photo, j'ai vraiment envie de te revoir en vrai, etc. » Et là, j'ai senti que limite, j'embêtais à lui envoyer des photos, quoi. C'est une réponse très courte, tu vas où
Et vous pensez que ce sont les photos qui lui ont posé problème ? Ou il y avait déjà quelque chose et les photos semblaient malvenues alors qu'il était déjà en train de s'éloigner ?
Non, il y avait déjà quelque chose, je pense, mais vraiment c'était plus, du jour au lendemain, des réponses vraiment courtes, des plus d'appels déjà. Si je l'appelais pas moi, il m'appelait pas, alors que d'habitude c'était souvent lui qui prenait l'initiative des appels parce que lui il est restaurateur, donc il a des horaires particuliers, donc je m'adaptais un peu à ses disponibilités.
Oui.
Et puis vraiment du jour au lendemain, très distant dans ses messages, plus d'appels, plus de tu me manques.
Oui.
Et en fait, il a fini par me dire c'est fini, j'arrête. Et là, je suis vraiment tombée de haut parce que quelques jours avant, il voulait carrément que je plaque tout pour venir en Bretagne. Tout allait bien entre nous, que ce soit sur le plan psychologique, mais aussi physique, parce qu'on avait une très bonne connexion sexuelle.
Mais oui, c'est important, évidemment.
Tout à fait.
Avant de s'engager dans une vie ensemble, effectivement, c'est important que vous ayez eu ce temps de présence et ce temps d'intimité, bien sûr.
Exactement. Et puis pour le coup, les week-ends qu'on passait ensemble dans mon appartement ou dans le sien, on s'entendait toujours super bien, il n'y a jamais eu une seule dispute, on avait les mêmes centres d'intérêt, donc on cuisinait beaucoup ensemble, c'était vraiment parfait quoi, sur tous les plans.
Oui, vous étiez déjà un couple, même si c'était
ouais,
dans la discontinuité, mais ce n'était pas seulement des moments exceptionnels, vous partagez des moments quotidiens, c'était déjà une vie de couple.
C'était déjà une petite couple, exactement. Et puis, en fait, ça allait très vite parce que dès le deuxième week-end ensemble, on s'est dit « je t'aime », alors que moi, d'habitude, il me faut plusieurs mois pour le dire.
Oui.
Donc là, vraiment, c'était particulier sur le rythme. Enfin, tout est allé très vite.
Mais c'était fluide, en fait.
C'est ça, exactement.
Oui. Mais oui.
Ça fait un peu une montagne russe, comme on dit souvent.
Avec une seule montée, une seule descente, si je comprends bien.
Eh bien, c'est ça, en fin de compte, il y a eu un seul pic, ouais, on peut le dire. Hein.
Oui.
Enfin, un seul pic, oui, il y a eu une seule montée, une seule descente, c'est ça. Et en fait, moi, je lui ai demandé des explications. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure à l'antenne, quand vous parliez de l'amener de cette façon, en lui disant, écoute, moi, je ne vais pas te juger, j'ai compris que tu voulais partir, je comprends que tu as peut-être des blocages inconscients ou pas.
Oui.
Mais par contre, par respect pour moi et pour mon besoin d'avancer dans mon parcours sentimental, s'il te plaît, donne-moi quelques explications, même si elles doivent me faire mal.
Vous lui avez vraiment livré un message plein de sagesse et plein d'ouverture. Enfin, vous ne pouviez pas faire mieux pour l'inviter à vous parler.
Exactement, c'est ça. Donc du coup, je lui avais dit ça et je l'avais relancé plusieurs fois parce qu'il ne savait pas trop me dire. Surtout qu'il me disait, en fait, je suis amoureux de toi, mais je ne peux pas continuer.
Oui, donc mais ça, encore
c'est quand même très dur à entendre.
Oui, mais encore. Pourquoi il ne pouvait pas continuer alors qu'il était amoureux de vous?
Exactement, donc c'est toute la question. Donc moi je lui ai dit, s'il te plaît, exprime-toi. Enfin voilà ce que je viens de vous dire, effectivement, de lui dire, moi je peux comprendre, je peux même entendre que tu aies rencontré quelqu'un d'autre, parce que pour moi ça me semblait la seule option possible. Je me disais, je vois pas d'autre option. Il a certainement rencontré une autre nana avec qui il a eu un coup de foudre. Et voilà, je préfère qu'il me le dise. Donc je lui ai vraiment dit mot pour mot, je préférerais que tu me dises que tu as rencontré quelqu'un d'autre plutôt que ne rien me dire, en fait.
Oui. Ben oui, vous l'aviez invité à vous dire la vérité et vous lui avez dit que c'était mieux pour vous d'avoir la vérité que d'être laissé face à cette énigme.
Exactement, parce qu'en fait, là où je rejoins les témoignages, c'est que l'incompréhension, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'en fait, déjà, ça fait perdre confiance en soi. On cogite, on se dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans mon physique qui l'a dérangé? Est-ce que la dernière fois qu'on a fait l'amour, finalement, moi, j'ai senti que c'était super bien, mais peut-être pas pour lui?
Ça, c'est très féminin comme question.
Ah oui,
c'est typiquement féminin. D'abord, de se demander s'il y a quelque chose chez soi qui a pu ne pas aller poser problème à l'autre, et particulièrement, est-ce qu'il y a eu quelque chose dans la relation sexuelle qui a pu ne pas être satisfaisant pour l'homme? Effectivement, une femme en vient très vite à se poser ces questions, et vous avez raison de dire que s'il n'y a pas de réponse, ça peut être terrible en termes de confiance en soi. On reste avec une énigme en sachant que peut-être quelque chose ne va pas chez nous, et comment continuer sereinement dans en pareil cas, bien sûr.
Exactement, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai essayé de lui dire aussi. Je lui ai dit, moi, là, je passe mes journées et mes nuits à cogiter. Je relisais même les messages. Je pense que je suis pas la seule à faire ça, mais je relisais vraiment les messages limite depuis le premier jour. Donc, je remontais des nuits et des nuits dans les messages pour voir ce que j'avais pu dire, qui avait peut-être pu créer un blocage, ou les choses que j'avais peut-être pas dit et que j'aurais dû dire. Enfin, vraiment, ça devenait maladif, quoi.
Ah, c'était, en fait, vous n'avez rien de malade, mais c'était un manège infernal.
C'est ça.
En fait, c'est la conséquence de la solitude dans laquelle il vous laissait. Comme il vous laissait complètement seul face à l'énigme, vous n'aviez pas d'autre choix qu'essayer de compter sur vos ressources mentales pour réanalyser, repasser au peigne fin tout ce qui s'était passé et essayer d'en tirer des hypothèses. Parce que votre esprit, lui, ne pouvait pas faire avec le vide d'explication. Il fallait qu'il y ait un sens.
Exactement, c'est ça, surtout quand la personne nous dit je t'aime, j'étais heureux avec toi, mais je pars.
Oui.
Et au final, il a fini par m'envoyer une lettre à force que je lui demande des explications, donc environ 15 jours après la rupture. Et en fait, sa lettre, elle est floue. Je ne saurais même pas vous résumer ce qui est dit dedans, tellement ça partait dans tous les sens. Je sentais dans sa lettre que lui, il cherchait des explications comme moi j'en cherchais.
Vous pensiez qu'il était lui égaré et qu'il ne s'y retrouvait pas dans ses propres sentiments et dans ses propres raisons?
Ouais, c'est ça. Dans sa lettre, ça partait vraiment dans tous les sens. J'arrivais pas. Franchement, je l'ai fait lire à plusieurs amis en disant peut-être que je ferme les yeux sur certaines choses parce que je veux pas voir la réalité en face. Mais non, mes amis m'ont dit, mais ça veut rien dire sa lettre. Il est paumé. En gros, le résumé, c'est je t'aime mais je te quitte. Et d'ailleurs, la fin de la lettre, c'est ça.
Si vous essayez de vous souvenir de la lettre, vous m'avez dit que c'est flou parce que vous aussi vous l'avez certainement lu dans un état émotionnel assez fébrile. Mais si vous essayez de vous souvenir de mots qu'il a pu employer pour mettre peut-être pour semer des petits cailloux blancs, même inconsciemment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention, à part « je t'aime mais je pars » Est-ce qu'il y a eu un début de piste dans sa lettre?
Bah, en fait, en tout cas, il avait l'air de dire « c'est moi le problème, j'ai jamais su rester longtemps en couple, je pense que j'ai un problème ». Pourtant, c'est la première fois que j'ai un coup de cœur comme ça avec toi. Il m'a dit « je pourrais te dire je t'aime dans plein de langues différentes ». Donc ça m'a marqué quand même. En me disant « oui, je sais pas, j'ai un problème, c'est moi, tu es vraiment bien, ne te remets pas en question, etc. »
Alors, si on prend ces tout petits indices, ça semble indiquer que le problème ne semble pas avoir été dans les sentiments, dans l'amour, puisqu'il vous réaffirme son amour. Il dit qu'il pourrait dire « je t'aime » dans toutes les langues. Dans une lettre de rupture, il n'est quand même pas obligé de réaffirmer comme ça ses sentiments. Donc, on peut supposer que ce n'est pas dans l'amour que l'accident a eu lieu. Alors, si ce n'est pas dans l'amour... Il y a deux solutions, enfin, vous allez peut-être avoir d'autres idées, mais ça peut être soit du côté du factuel, est-ce qu'il y a, il y a quelque chose factuellement dans la vie pratique qui les fait reculer devant votre projet de vie ensemble, parce que c'est quand même à ce moment-là que s'est produit le tournant. Ou autre solution, ça peut être une chute, non pas dans les sentiments, mais dans le désir lui-même. Donc ça, c'est plutôt l'aspect érotique, sexuel, question que vous vous êtes posée vous-même, puisque vous avez... Donc, enfin, pour moi, c'est les deux hypothèses que je vois. Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça?
Alors, en fait, moi, l'issue de tout ça, c'est que j'ai fini par me dire qu'en fait, c'était quelqu'un qui devait peut-être fonctionner beaucoup au coup de cœur, et après, ça fait comme un soufflé dès que... Il n'y a plus l'étreinte des premiers jours et de la découverte de l'autre. Bah, finalement, ça ne l'intéresse plus. Mais mine de rien, les derniers jours, c'était encore très... Enfin, les dernières fois où on s'est vus, c'était très passionnel. Donc, petit à petit, cette piste devenait un peu moins probable.
Oui.
Et en fait, au bout d'un moment, j'ai tout simplement arrêté de chercher des explications. Et c'est là que c'est intéressant parce que j'ai compris que le fait de lâcher prise aussi... Ben, ça prend du temps, par contre, c'est normal au début de cogiter dans tous les sens, mais le fait de lâcher prise et de se dire, ben, en fait, j'aurai peut-être jamais d'explication, je comprendrai jamais, peut-être que lui-même ne se comprend pas, c'est aussi s'autoriser, en fait, à passer à autre chose. Et se dire, ben voilà, je saurai peut-être jamais.
En tout cas, ce qui est sûr, Audrey, c'est que vous avez bien fait de ne pas vous accrocher à une demande qui semblait sans issue. Parce que vous l'avez fait, nous pouvons essayer de faire des hypothèses. Moi, à travers ce que vous me dites, ce qui me paraît le plus probable, c'est que ce soit ni dans les sentiments amoureux, ni dans le désir sexuel, parce que vous ne pouvez pas vous tromper sur le fait qu'il y ait eu des dernières rencontres passionnelles. C'est impossible de faire semblant d'être dans la fusion érotique et amoureuse. Donc, on peut plutôt supposer que c'est du côté de l'engagement de vie, parce que manifestement, c'est au moment où votre projet de déménagement se rapprochait sérieusement qu'il y a eu un recul de son côté. Ça me paraît être le plus probable. Lui, peut-être, je pense qu'il en sait un peu plus que ce qu'il vous a dit, parce que quand même, il doit avoir une idée du registre, en tout cas, qui a causé les choses. Enfin, il doit savoir si c'est dans le désir, si c'est dans l'amour, si c'est dans la perspective de faire un couple. Et c'est plutôt ça qui semble le plus probable. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la sagesse de vous décrocher d'une demande qui reste sans issue. Et je crois que ça, c'est vrai pour... tout type de demande. Vous savez, et c'est en ça aussi que ça peut être si utile à d'autres auditeurs, même quand un témoignage paraît très singulier, on arrive presque toujours sur des questions universelles. Ce qui fait souvent souffrir dans la rupture ou dans l'impossibilité de rompre, que ce soit avec des parents, que ce soit avec un amoureux, que ce soit avec un ami, une relation, quelle qu'elle soit, c'est qu'on reste accroché à sa demande envers l'autre. Et plus on est accroché à sa demande, moins on a de réponses parce que l'autre se dérobe et ça relance la demande et ça devient cette cette affaire de demande, ça devient comme une sorte de table au casino dans laquelle plus on perd, plus on cherche à se refaire, c'est-à-dire plus l'autre se dérobe, plus on cherche à avoir des réponses. Et là, on entre dans quelque chose dont il est très difficile de se séparer, de faire le deuil. Donc je crois que c'est très sage qu'à un moment donné, quand vous avez eu le sentiment d'aller au bout de votre demande d'explication, vous soyez parvenu à vous en décrocher et de dire que décidément, c'était de son côté.
Voilà, et c'est pour ça aussi que je tenais à témoigner, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'accrochent à ça et qui veulent à tout prix savoir, et c'est totalement compréhensible. Mais je pense qu'au bout d'un moment, lâcher prise, c'est s'accorder aussi la possibilité d'avancer et pourquoi pas de rencontrer quelqu'un d'autre, ou de se rencontrer soi aussi, parce que le célibat, à la fin d'une relation, ça peut être l'occasion de se redécouvrir soi-même.
Oui.
Mais en tout cas, lâcher prise pour avancer dans quelque chose de plus serein et pas de cogiter tout le temps comme ça à chercher des raisons. Juste dire, bon bah tant pis, je saurai peut-être jamais et je passe à autre chose.
Oui, et effectivement, pour pouvoir se séparer dans de bonnes conditions pour soi, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, l'important c'est de pouvoir terminer une relation en n'étant pas ravagé, soit par une perte de confiance en soi, soit une perte de confiance dans l'amour, soit une perte de confiance dans l'être humain. Et c'est important de trouver un moyen de guérir, même si c'est une petite blessure, c'est une petite guérison, mais pour pouvoir à nouveau aborder la relation suivante avec l'élan qui, en principe, nous amène vers l'amour. Donc vous avez raison, il s'agit de guérir. Bon, il y a plusieurs formes de guérison. Pour vous, c'est votre sagesse. Vous avez une position assez philosophique. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire ça seuls, il y a toujours la possibilité de recourir à un thérapeute, de faire un travail qui peut être très court d'ailleurs, parce que parfois, on n'a pas forcément besoin d'une aide longue. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de restaurer sa propre intégrité affective, intérieure, pour pouvoir à nouveau se relancer vers l'avenir et vers la réalisation de ce qu'on désire, si c'est un couple.
Oui, c'est ça. Alors après, oui, il y a une part de sagesse, mais il y a aussi une part où, je vous l'avoue, je fais aussi une psychothérapie.
Oui.
Alors en parallèle du fait d'avoir... Je pense que j'ai un peu de sagesse par rapport aux relations que j'ai eues, mais aussi une psychothérapie, ça fait jamais de mal. Pour déconstruire un peu des schémas, parce que finalement, depuis cette relation, j'ai remarqué... après, je me suis inscrite sur des applications... au début, sans vraiment avoir de but précis, mais en me disant pourquoi pas me remettre en couple. En fait, c'était trop rapide. Et en plus, je tombais sur des garçons qui ne donnaient pas de nouvelles. Donc, en plus, quand ça nous arrive une fois, déjà, on perd un peu confiance. Après, deux fois. Et après, moi, j'ai compris sur les applications de rencontre qu'il y avait quand même une notion de consumérisme où on prend, on jette, et c'est un peu comme un catalogue de Carrefour ou je ne sais quoi. Et on tombe sur des profils, on essaye, on en prend un autre. C'est un peu la société de consommation qui veut ça, parce qu'on ne fait pas que consommer des biens matériels, on consomme aussi l'amour, finalement.
Alors là, Audrey, il y a une question très intéressante qui est amenée par ce que vous dites, c'est que vous êtes en psychothérapie, donc vous avez tout à fait le cadre pour le faire, ou vous l'avez été, je ne sais pas si vous continuez.
Oui, je continue.
Donc, vous avez le cadre pour le faire. Je pense que c'est important que vous puissiez faire la distinction entre une certaine répétition dans votre vie qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire une répétition qui vient des sites de rencontres, au sens où sur les sites de rencontres, il y a beaucoup de personnes qui commencent une relation virtuelle. On n'est pas sûr qu'ils puissent s'engager dans une relation réelle et peuvent avoir un certain nombre de problèmes. Ou alors, d'identifier si vous pensez que la répétition, elle est dans votre propre vie. Parce qu'on sait bien que l'une des façons qu'a l'inconscient de se manifester, c'est dans ces scénarios de répétition qui font qu'il y a une série d'événements donc plutôt malheureux, parce que les événements heureux, on déplore rarement la répétition, mais une série d'événements malheureux qui invitent à interroger ce qu'il peut y avoir de votre côté, faisant se répéter quelque chose à votre insu. Ça, c'est typiquement l'inconscient. Et puisqu'on parlait de La Fontaine au début de l'émission, il y a une très jolie citation de La Fontaine qui dit qu'on rencontre sa destinée souvent par les chemins qu'on prend pour l'éviter. Alors la destinée, c'est typiquement la répétition. Donc on croit qu'à chaque fois qu'on commence une nouvelle histoire, on va aller vers quelque chose de très différent ou même inverse de ce qui nous a fait souffrir. Et soudain, derrière les apparences ou derrière le leurre, il y a le schéma de répétition qui nous rattrape. C'est ça, quand La Fontaine dit on rencontre sa destinée, souvent par les chemins qu'on prend pour l'éviter. Et je crois que si vous êtes en thérapie, ça me semble important que vous puissiez identifier si vous êtes, de votre point de vue, dans un scénario de répétition du côté de votre inconscient, de sorte que vous puissiez éventuellement en repérer et la mécanique et les causes.
Ouais, alors après, il y a deux choses, parce que, enfin, je ne vais pas m'égarer du sujet de ce soir, mais sur le fait que j'ai rencontré quelques hommes qu'on voit, dont on n'a plus de nouvelles, ça, j'arrive assez bien à me détacher, parce que je me dis, bon, c'est beaucoup la société de consommation, c'est les applications, et maintenant, je suis plutôt dans une recherche d'une période de célibat, où du coup, je profite de relations éphémères. Donc, finalement, j'ai beaucoup lâché prise par rapport au fait que, sur les applis, je ne pense pas que je rencontrerai l'amour, et c'est comme ça. Par contre, mes consultations, ma psychothérapie, elles portent plutôt sur le type de profil que j'attire, dans le sens où j'ai souvent attiré des personnalités toxiques avec lesquelles j'ai voulu faire la sauveuse, etc. Donc, c'est une autre question. Donc,
oui, mais c'est aussi une question d'un scénario de répétition, effectivement.
Voilà.
Oui.
Voilà, c'est ça.
Mais écoutez, vraiment, nous vous remercions pour, je dis nous, parce que Paul se joint à moi et vous a écouté dans un premier temps, pour ce témoignage qui a vraiment apporté encore un éclairage différent sur la question des sites de rencontres. Alors, j'ai encore un témoignage de Cerise via la page Facebook qui, elle, a une position tranchée sur la question. Elle dit se rencontrer concrètement en chair et en os pour prendre un verre ensemble au bout de 15 jours après le premier contact, c'est la règle. Moi, c'est le concret. Qu'on ne raconte pas des mensonges, j'ai 60 ans, c'est pour ça. Sous-entendu, c'est pour ça que je pense ainsi. Donc, effectivement, il y a plusieurs regards sur les sites de rencontres et cette diversité nous permet d'avoir un panorama du sujet. Voilà, merci encore, Audrey.
Merci.
Et belle soirée à vous et peut-être à une autre fois sur Dans Parlons-nous.
Avec plaisir, au revoir.
Au revoir.
Sabine Calégari, parlons-nous jusqu'à 1h sur RTL.